Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est 4h57. Nous sommes le mercredi 20 février 2019, une date prolifique pour les génies de la musique. C'est en effet une véritable flopée de chanteurs, tous plus illustres les uns que les autres, qui ont vu le jour un 20 février. Et dans des genres très différents, puisqu'on souhaite aujourd'hui un bon anniversaire à Rihanna. Alors on signale que l'audience réagit instantanément à la diffusion de cet extrait de Rihanna. On progresse sur les jeunes, les 15-25, re-kiff Europe 1. Bon, aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de celui qui avait parfaitement décrit ce que j'ai ressenti la première fois quand j'ai vu Eva Rock lorsqu'elle pétrissait une soca dans une échoppe du Vieux-Nice.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle si c'est un rêve de super belle.
Et oui, bon anniversaire. Oui, je vous laisse continuer les filles si ça vous plaît. Bon anniversaire à Richard Cosciente. Mais quand je vous disais que le 20 février était prolifique en génie de la musique, je ne vous mentais pas, puisqu'on souhaite également aujourd'hui un joyeux anniversaire à Ophélie Winter. Alors là, si vous pouviez voir ce que je vois dans le studio, je peux vous dire qu'Ophélie Winter marche instantanément sur Eva Rock et Céline Dacosta. Je pense que c'est leur génération. Et puis, il y a ceux qui nous ont quittés. Alors lui, bon, certes, ses chansons n'auront pas laissé une trace indélébile dans l'histoire du rock comme celle d'Ophélie Winter, mais bon, c'était pas tout à fait une brêle non plus. Kurt Cobain, le leader de Nirvana, aurait eu 52 ans seulement. Eh oui. Et un malheur pour la musique n'arrivant jamais seul, on pleure également aujourd'hui la mort de celui dont on aurait rêvé d'aller à la soirée d'anniversaire, sûr qu'on n'y buvait pas que du banga.
Tout nu et tout bronzé.
Une pensée pour Carlos. J'accueille sans plus tarder mes complices du petit jour, Céline Dacosta et Eva Rock. Bonjour mesdames. Alors plutôt
bonjour,
désormais,
bonjour,
nous tirons pas.
Ah, les deux.
Les deux, ouais.
Ah, les deux. Mais dans quel ordre?
Ah, mais c'est ça, ça c'est un petit
ça dépend, début de soirée, fin de soirée, ouais, tout dépend.
Coquinette, voilà. Eva, quelle est la question du jour?
Eh bien, hommage à Karl Lagerfeld ce matin, évidemment. Quel est votre rapport à la mode? Est-ce que vous achetez beaucoup de vêtements? Et quel est ce vêtement dont vous ne pouvez pas vous passer? Vous nous répondez sur Twitter, hashtag Europe 1.
À vos côtés, Eva, celle qui est un peu notre...
Seigneur météo,
Céline Dacosta, notre seigneurita météo, quel temps pour ce 20 février?
Alors, le soleil va revenir doucement, mais en attendant, ce matin, c'est encore un peu gris sur la moitié nord. La bonne nouvelle, c'est qu'après, à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine,
ça, c'est la très très bonne nouvelle.
Il va faire très beau et très très doux. Donc,
ça c'est très bon. Ouais. Merci Céline, les dés sont jetés.
Merci de vous les copains.
De vous les copains, c'est parti.
Et bienvenue à vous en ce mercredi 20 février. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 5h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce mercredi 20 février, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Des milliers de Français réunis pour dénoncer les actes anti-juifs, 70 rassemblements partout en France. À Paris, 20 000 personnes, place de la République, des élus mais aussi des citoyens de toutes origines, de toutes confessions. Ce soir, Emmanuel Macron prendra la parole au dîner du CRIF. Les Juifs de France demandent la tolérance zéro face aux agressions. Alexandre Benalla et Vincent Kraze sont en prison, placés en détention provisoire pour non-respect de leur contrôle judiciaire. Et puis les footballeurs lyonnais ont résisté à Messi et au Grand Barcelone. 0-0 en 8e de finale à la Ligue des Champions. Le rêve est permis avant le match retour le 13 mars.
Europe 1.
Elles étaient 20 000 selon le PS à l'origine du rassemblement. 20 000 personnes au pied de la Marianne de bronze, place de la République à Paris. Des milliers d'autres dans une soixantaine de villes par ailleurs en France pour clamer « ça suffit » après une recrudescence d'actes antisémites ces dernières semaines. Encore hier matin, on apprenait la profanation d'une centaine de tombes dans un cimetière juif d'un petit village alsacien. Une enquête est ouverte. Dans la foule des personnes rassemblées, la moitié du gouvernement, le Premier ministre Édouard Philippe, deux anciens présidents, François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais aussi ces anonymes de tous bords.
Oui, il y a pas mal de monde, il aurait pu y en avoir davantage, la place n'est pas totalement pleine, mais déjà ça fait plaisir que des gens de toute tendance soient là. Pour la mort d'Ilan Halimi, il y avait eu une manifestation, mais il n'y avait que des gens de sa confession et les autres s'en fichaient éperdument, donc ça m'avait beaucoup choqué ça.
En 2015, quand il y avait les Charlie, je sortais de chez moi dans le 14e arrondissement, on n'arrivait pas à bouger, et là malheureusement, en sortant à la République, ça circulait facilement. Alors, il ne faut pas être négatif dans la vie, je veux dire, il y a de l'espoir, il y avait quand même quelques milliers de personnes, mais en même temps, je pense qu'il y a une prise de conscience, il y avait pas mal de non-juifs, et ça fait chaud au cœur.
Oui, je pense que se sont soutenus, et c'est important que des juifs et des non-juifs manifestent ensemble contre l'antisémitisme. C'est souvent des juifs qui manifestent, et là, c'est important que des juifs et des non-juifs manifestent ensemble. C'est un signe fort pour notre pays.
Des propos recueillis par Mathieu Bock pour Europe 1 et au sein de ces rassemblements, quelques poignées de gilets jaunes, parfois prises à partie par des participants qui ont perçu leur présence comme déplacée, après notamment les propos adressés samedi dernier au philosophe Alain Finkielkraut. Face à l'antisémitisme, la République est un bloc, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, promettant la fermeté depuis le mémorial de la Shoah où il s'est recueilli hier. Le chef de l'État pas présent au rassemblement et qui doit s'exprimer ce soir lors du traditionnel dîner du CRIF. Les Juifs de France attendent notamment un renforcement de l'application de la législation sur l'antisémitisme.
Europe 1, il est 5h03.
Alexandre Benalla a passé sa première nuit en prison.
Placé en détention provisoire à la prison de la Santé, comme Vincent Crase, la justice estime qu'ils n'ont pas respecté le contrôle judiciaire qui leur était imposé dans l'affaire des violences du 1er mai. Alain Acco.
À l'origine de ce rebondissement, il y a une conversation entre Alexandre Benalla et son ami Vincent Crase. Conversation enregistrée clandestinement en juillet dernier, 4 jours après leur mise en examen, alors qu'ils avaient interdiction formelle de se rencontrer.
Le patron hier soir, il m'envoie un message. Il dit, tu vas aller bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi.
Donc le patron nous soutient ?
Ah ben, il fait plus que nous soutenir. Ce qui a été sorti de son contexte sur...
Ce jour-là, les deux hommes ne se doutent pas un instant que leur conversation va se retrouver 6 mois plus tard sur le site Mediapart. À tel point que devant la commission d'enquête du Sénat, Vincent Crase n'hésite pas à déclarer sous serment...
Je n'ai plus de contact avec Monsieur Benalla. Mon contrôle judiciaire m'interdit d'avoir aucun contact avec les protagonistes de l'affaire.
Mensonges et colère des magistrats, juges d'instruction, procureurs, juges des libertés et de la détention. Tous sont d'accord sur un point. Benalla et Crase ne peuvent plus rester en liberté. Leurs avocats, eux, contestent une décision basée sur des enregistrements clandestins à l'origine douteuse.
Alain Acco, et la journée s'annonce délicate pour Alexandre Benalla, ancien collaborateur de l'Élysée. C'est aujourd'hui que la commission sénatoriale doit dévoiler ses conclusions sur l'affaire. Elle pourrait demander l'ouverture d'une nouvelle enquête pour parjure, pour avoir menti lors des auditions devant les sénateurs.
Le film de François Ozon, Grâce à Dieu, sortira bien dans les salles aujourd'hui.
Il raconte la lutte des victimes présumées du père Prénat dans le diocèse de Lyon. Hier, une ex-membre du diocèse poursuivie pour non-dénonciation a été déboutée. Elle demandait que son nom soit retiré du film. À Marseille, l'agression à l'arme blanche est un acte de droit commun, précise le procureur de la République. Rien ne permet pour l'heure de le considérer comme un acte terroriste. L'assaillant, un Marseillais de 36 ans, avait été condamné en 2005 à 15 ans de prison pour le meurtre de son père. Il a blessé au moins 2 passants sur la Canebière avant d'être abattu par la police. Au Venezuela, l'armée reste pour l'instant du côté de Nicolas Maduro, président élu mais contesté, refusant de reconnaître l'opposant Juan Guaido comme chef de l'État. Des militaires déterminés à empêcher l'entrée sur le territoire de l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis. Elle est stockée depuis des jours à la frontière colombienne. Et puis pour finir, sachez que Oni a été retrouvée. Oni, c'est la chienne spécialisée dans la recherche des victimes des pompiers de Vannes. Elle avait été volée dimanche dernier. Elle a été retrouvée en bonne santé.
Oni soit qui mal y pense. Ouais. Au moment de passer au journal des sports, j'aimerais qu'on salue la mémoire de celui qui avait été le porte-bonheur des Bleus en 1998. On l'a oublié, il aurait eu 76 ans aujourd'hui.
Allez la France, allez !
Big bisous Carlos. Des sports. À la une du journal des sports, les Lyonnais ont plié, mais peuvent encore rêver.
Ils peuvent rêver qu'ils feront tomber le grand Barcelone en Ligue des champions de football. 0-0 hier soir au Parc OL en 8e de finale. Allez, tous les espoirs sont permis pour le 13 mars, date du match retour en Catalogne. Même si Lionel Messi et ses coéquipiers partiront favoris. Hier soir, le quintuple ballon d'or est en tout cas resté muet, malgré la très forte domination barcelonaise, notamment en seconde période. Messi à la fois bien maîtrisé par les milieux et les défenseurs lyonnais, mais aussi peu en réussite devant le but, mis notamment en échec par un super gardien Anthony Lopez qui a récité une grande partition. Le bilan est dans le positif, note l'entraîneur Bruno Genesio.
0-0 en Coupe d'Europe, on sait que ne pas encaisser de but à domicile, c'est toujours très très important. Maintenant, il faudra marquer pour se qualifier, mais ça nous laisse toutes nos chances et je pense que c'est déjà un premier point positif, même si on aurait aimé faire mieux, notamment en deuxième mi-temps.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Au retour dans 3 semaines, les Lyonnais espèrent compter dans leur rang. Leur capitaine et meneur de jeu, Nabil Fekir, le champion du monde, était suspendu hier soir.
Dans l'autre match d'hier, 0-0 également.
Et voilà, une soirée européenne
petite
sans
soirée,
but entre Liverpool et le Bayern Munich. Retour là aussi le 13 mars. À suivre ce soir, les deux derniers huitièmes de finale aller à 21h. Schalke 04, Manchester City et Atlético Madrid, Juventus Turin.
Termine Jérôme avec le chiffre du jour.
Une grande première pour la bleue du tennis Kristina Mladenovic hier pour la première fois de sa carrière. Elle a battu en tournoi une numéro 1 mondiale. Victoire au premier tour de Dubaï face à la japonaise Naomi Osaka. La numéro 1 mondiale est victorieuse des deux derniers grands chelems dont l'Open d'Australie il y a à peine un mois. La française s'impose 6-3, 6-3.
Merci.
La perf française du jour, pardon.
Votre performance à vous, c'était ce journal des sports qui était magnifique. Mais c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, on le remercie. Allez, je vous ai senti un peu mou tout à l'heure hein, sur Carlos. Et tous en cœur.
Allez, la France
198. Oh, oh, oh.
Bah, c'est maintenant ou jamais, il avait raison. On a
ah
dit.
Oui.
Je
ne connais pas cette chanson.
Ben oui, mais vous n'êtes pas attentif aux belles créations musicales, je voulais que je vous dise.
J'aimais bien les bisous.
Oui, bon, très bien. Je crois que Philippe, notre réalisateur, est fan de cette chanson de Carlos. Il voulait plus l'enlever, le coquinou. Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, changer de vie, facile à dire, plus compliqué à mettre en pratique. Chaque matin, zoom sur ceux qui ont réussi. Aujourd'hui, Jean-Marc, il était ingénieur qualité, il est devenu guide de montagne en Laponie. Oh, fascinante, Laponie.
Bon réveil, il est 5h08. Il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 et c'est l'heure de faire un point sur la météo avec vous Céline. Encore de la grisaille ce matin.
Oui, c'est vrai, surtout sur la moitié nord, hein, même si on a, si on en a aussi un petit peu sur la moitié sud et surtout du côté du Languedoc-Roussillon. Grisaille, brume et même brouillard qui vont doucement se dissiper sur la moitié nord, laissant place à des éclaircies cet après-midi. Ça va rester un petit peu plus gris sur la Bretagne. Le soleil arrivera plus vite sur la moitié sud et brillera même largement dans l'après-midi. Les températures remontent doucement, 11 à 19 degrés du nord au sud pour cet après-midi avec 14 degrés à Paris.
Merci Céline. Eva.
En hommage à Karl Lagerfeld qui nous a quittés hier, on vous demande depuis ce matin, 5h, quel est votre rapport à la mode? Est-ce que vous achetez beaucoup de vêtements? Quel est le vêtement dont vous ne pouvez pas vous passer? Et bien sûr Twitter, avec le hashtag Europe 1, c'est Kiel qui vient de nous répondre. La mode, c'est des vêtements dans lesquels je me sens bien, des vêtements qui durent avec un objectif de réduire l'impact environnemental. On en parle souvent dans cette matinale, mais c'est vrai que c'est une de vos préoccupations. Et Habib Bill, qui est censé dormir à cette heure-là, il est alité pour cause de grippe, on l'embrasse évidemment. Il achète peu de vêtements, mais il accro au polo, nous dit-il. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, qui vous amuse et qui parfois aussi vous subjugue. Grâce aux témoignages d'hommes et de femmes qui un jour ont choisi de changer de vie. Ce matin, je vous présente Jean-Marc Périgaud. Il était ingénieur qualité. Il est devenu guide de montagne. Où ça? Dans les Pyrénées? Dans les Alpes? Non. Pas de petits joueurs dans Fallait Oser. En Laponie, mes aïeux.
Fallait Oser.
Ce que j'aime le plus, hein, c'est les grands espaces et la faune sauvage. Et si possible, là où il n'y a personne. Donc l'Arctique est un endroit rêvé pour ça. Donc c'est pour ça que je suis parti en Scandinavie faire du tourisme où on fait du traîneau, de la raquette, de la motoneige, du ski. La découverte de la Laponie, quoi.
Jean-Marc ne s'est pas installé tout de suite en Laponie, il rentrait à Paris entre chaque excursion. Et puis en 2013, il a déménagé définitivement sur une île suédoise avec sa femme.
Et depuis, il est guide à plein temps, mais aussi photographe. Alors il guette les aurores boréales, leur ton pastel. Il adore faire visiter ce territoire lointain aux touristes et ne se lasse absolument pas de ses balades par temps très 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 frais.
Moi, je suis toujours fasciné par les couleurs, toujours fasciné par les aurores boréales. La nuit dernière, il faisait moins 37. Ça ne m'a pas dérangé pour aller dehors, pour aller traquer les aurores. L'idéal dans la vie, c'est d'avoir une passion et après de vivre sa passion. Et la troisième étape, c'est vivre de sa passion. Et donc, j'ai réussi à passer tous les stades. J'ai la chance d'avoir la passion pour les régions polaires et puis toutes ces ambiances-là et de pouvoir y être quasiment tous les jours de l'année dehors. Étant donné que je guide entre 200 et 260 jours par an.
Et sachez que le meilleur mois pour profiter des aurores boréales, c'est le mois de janvier. Ça vous laisse un peu de temps pour préparer votre voyage.
Vous pouvez retrouver l'agence de voyage de Jean-Marc et ses photos sur www.aventurearctique.com. Jean-Marc, que l'on salue car il nous écoute, figurez-vous, depuis la Laponie. C'est lui qui nous a d'ailleurs contacté. Mais oui, il
c'est
nous
bon,
a contacté pour nous raconter son expérience. Alors n'hésitez pas, si c'est votre cas en Laponie ou ailleurs, vous nous envoyez un mail ou un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1. Il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'allégresse adoucit le caractère parfois un peu âpre de l'info. À suivre mercredi les bons tuyaux, tous nos conseils culture et nouvelles technologies, avec notamment la sortie aujourd'hui d'un film d'action haletant, d'autant plus surprenant qu'il est français. Et puis dans notre page santé, on fera un point sur l'épidémie de grippe particulièrement virulente cette année. Comment s'en prémunir? Comment distinguer un état grippal de la vraie grippe? En tout cas, en attendant, vous connaissez notre conseil. Ça peut pas faire de mal. On aime tant cette chanson qu'un jour promis, on vous la diffusera en entier. Mais pour l'heure, une chanson plus d'actualité quand même. Bradley Cooper et Lady Gaga, Shallow sur Europe 1.
5h, 7h, Mathieu Noël sur Europe 1.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Bradley Cooper et Lady Gaga, Shallow sur Europe 1.
Il est 5h15. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Des milliers de Français réunis pour dénoncer les actes anti-juifs. 70 rassemblements partout en France. À Paris, 20 000 personnes, place de la République, des élus mais aussi des citoyens de toutes origines, de toutes confessions. Alexandre Benalla et Vincent Crase placés en détention provisoire à la prison de la Santé pour non-respect du contrôle judiciaire qui leur était imposé dans l'affaire des violences du 1er mai. Ils avaient interdiction de se rencontrer, ce qu'ils ont fait fin juillet. Leur conversation avait été secrètement enregistrée. Enfin, même si ça sera dur, l'espoir est permis pour les footballeurs lyonnais qui ont résisté hier à l'Ogre Barcelonais, 0-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Match retour à Barcelone le 13 mars.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 20 février et les pronostics hippiques alors. C'est vous qui allez les donner, Eva, peut-être? Non? Alors on dit bonjour Thierry Léger. Je me suis laissé dire qu'il y avait des courses aujourd'hui à Cannes-sur-Mer.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 106 Walek. Après une assez longue traversée du désert, il vient d'afficher un net regain de forme, comme le prouve sa 3e place obtenue le 30 janvier sur le parcours qui nous intéresse et dans un lot supérieur à celui de cet après-midi. Déjà lauréat l'an dernier d'un quintet, il revient dans cette catégorie avec de solides arguments. Sa condition physique, son aptitude au sable fibré, mais surtout un moral de nouveau au beau fixe grâce aux bons soins quotidiens de son entraîneur Nicolas Collery. Alors notez bien, pour Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la première course, le numéro 6, Walek.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et voici venu le moment que vous attendez tous car je sais votre goût pour le voyeurisme. Ce moment où il vous est donné de jeter un œil indiscret dans l'intimité de notre petite colocation. Découvrir ce qu'Evarock se dit devant le miroir de la salle de bain.
Ma pilosité va très bien.
Voir Céline Dacosta chercher à déchiffrer le manuel, il est vrai, très complexe, de notre cafetière Nespresso.
Oh là là, c'est compliqué.
Ou encore Jérôme Lacroix déambuler dans le plus simple appareil avec le même sans-gêne qu'Alain Chabat dans Gazon Maudit. Et j'entends cette critique récurrente. C'est bien joli, Mathieu, de se moquer des autres. Mais toi aussi, tu vis dans cette coloc.
Ouais.
Et toi aussi, certainement, tu dis des bêtises en antenne. Moi ? Oh, moi, dire des bêtises hors antenne, soyons sérieux. Non, si vous entendiez ce que je dis hors antenne, vous découvrirez seulement un animateur ayant su rester simple et proche des gens. Comment vérifier ? Non, la régie, non. Non, c'est bon, les auditeurs me croient sur parole, non.
Loue-toi une Punto, hein.
Ah bah non.
Plutôt que de prendre un jet ski, choisissez le pédalo.
Oh, j'y penserai. Oui. C'est bien imité. C'est bien imité, mais non, on aura reconnu Nicolas Canteloup. Chapeau l'artiste. On passe au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. Un sujet et une silhouette habillent la une de vos quotidiens ce matin. Le sujet, les rassemblements d'hier contre l'antisémitisme. Le Parisien parle de sursaut républicain. La France dit non à l'antisémitisme, titre Le Figaro. L'affaire de tous a choisi La Croix. Pendant que Libé écrit La République réplique. Quant à la silhouette qui se dessine en première page, c'est évidemment celle de Karl Lagerfeld, en noir et blanc évidemment. Ultime géant de la couture, selon Midi Libre, ou encore ce titre de Libération, Lagerfeld se défile. Mais vous, mes trépidants agneaux, j'ai vraiment écrit ça. Oui. Qu'avez-vous débusqué dans la presse ce matin, Eva ?
Et si on parlait d'élections présidentielles ? Mais du côté des États-Unis, parce que la bataille pour 2020 débute.
Bernie Sanders, on est reparti.
Mais voilà, exactement. Et du côté des démocrates, c'est un ancien candidat à l'investiture qui fait parler de lui en ce moment, Bernie Sanders. Battu par Hillary Clinton en 2016, l'homme de 77 ans repart au combat. Alors, pour deux raisons fondamentales, dit-il, selon Libération. La première, c'est que l'occupant actuel de la Maison-Blanche est une honte pour notre pays. C'est un menteur pathologique, il est raciste, sexiste, homophobe, xénophobe. Voilà, n'en jetez plus. La seconde raison, ce sont les idées progressistes défendues par Bernie Sanders. Alors depuis très longtemps, idées jugées radicales et extrêmes en 2016 et qui sont désormais bien plus populaires. Alors c'est par exemple l'assurance maladie publique universelle, le salaire minimum à $15 de l'heure ou encore la gratuité de l'université publique. Depuis près de 4 décennies, vous imaginez, Bernie Sanders prononce les mêmes discours, porte les mêmes causes, à commencer notamment par la défense des travailleurs, des droits civiques et la transition écologique. Et selon plusieurs enquêtes, eh bien, il serait aujourd'hui la personnalité politique la plus populaire du pays. Autre atout pour lui, un réseau national est nourri de soutien qui attendait depuis longtemps l'entrée en lice de l'homme. Et puis, il reste à obtenir quand même l'investiture d'un parti qu'il refuse de rejoindre officiellement. Mmh. Et oui, Bernie Sanders revendique son indépendance, même s'il brigue l'investiture des démocrates. Alors sa popularité, et ça m'a beaucoup étonné, elle coïncide avec la montée en puissance des idées progressistes aux États-Unis. Figurez-vous que les démocrates américains feraient davantage confiance au socialisme qu'au capitalisme. C'est aussi le cas chez les Américains.
C'est un sondage.
Oui, qui sont démocrates, qui se revendiquent démocrates. Oui. Ils feraient davantage confiance au socialisme plutôt qu'au capitalisme.
Ça, c'est très étonnant. Parce que, enfin, un tournant majeur, parce que dans l'histoire des États-Unis, le socialisme s'est vu un peu. C'est toujours associé, à tort évidemment, à l'Union soviétique, enfin, au communisme. Et du coup, il y a une très grande méfiance vis-à-vis du terme socialisme.
Voilà, je crois que la proportion, c'est 54% pour le socialisme. Mais c'est le cas aussi chez les Américains de moins de 30 ans. Cette fois-ci, toute tendance politique confondue à 51%. Évidemment, qui préfèrent, ou en tout cas qui font plus confiance au socialisme qu'au capitalisme. Et si les primaires démocrates avaient lieu demain, eh bien, deux hommes seraient en tête, Bernie Sanders, donc, 77 ans, et Joe Biden, 76 ans, deux hommes blancs, expérimentés certes, mais pas tout jeunes, et c'est bien là le problème. L'âge de Bernie Sanders, évidemment, fait déjà débat au sein même de ses partisans.
Mais Bernie devrait désigner son successeur, un jeune Obama, un jeune Bernie.
Oui, les plus fans disent quand même qu'il est en meilleure forme que Trump, au passage.
Petit taquet.
À lire dans Libération.
Céline, merci Eva. Céline Dacosta.
Oui, un dossier parents et enfants trouvé dans La Croix qui revient sur les accidents domestiques qui tuent, figurez-vous, 6 fois plus que la route. On parle de 20 000 morts et 11 millions de blessés par an. C'est la troisième cause de mortalité après les cancers et les accidents cardiaques et la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 14 ans. Alors les accidents les plus fréquents ont lieu à la maison et au jardin, les chutes, les brûlures, les coupures ou les intoxications. Et ce sont les personnes âgées, les enfants qui sont donc les plus touchés. Ces drames sont souvent sous-estimés par les parents qui pensent à tort que rien ne peut arriver à la maison. Mmh. Pourtant, éduquer au danger doit faire partie de l'éducation. Et même s'il ne comprend pas tout, il est important que le tout petit entende son parent dès le plus jeune âge prévenir « attention, c'est chaud » par exemple. Car avant 2 ans, quand un enfant se brûle, il n'a pas du tout le réflexe de retirer sa main. Et non, il n'a pas non plus le sens des distances et s'il se penche dans le vide, il risque de tomber. On apprend aussi que les accidents domestiques évoluent. Alors on connaît le bain trop chaud, la chute dans l'escalier, donc on pense évidemment à mettre des thermostats sur les robinets ou encore des barrières dans les escaliers. Mais
et
la
des
cuisine,
trucs dans les prises aussi.
Ah bah évidemment.
Moi j'avais
oui,
ça.
Oui,
quand
oui, 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 bien sûr, les prises. Mais la cuisine reste le lieu de tous les dangers. Alors toujours apprendre aux petits à ne pas toucher le four. Alors c'est vrai que de plus en plus maintenant les portes sont isothermes. On en parlait
oui,
avec
même,
Jérôme Lacroix.
C'est toujours bien de leur donner
oui,
le réflexe si jamais ils sont dans un endroit où ça l'est pas.
Exactement. Vous avez tout compris.
Voilà, si on...
Chez mamie
voilà,
ou dans une location de vacances, ça peut arriver que le four ne soit pas si moderne. Et dans la série des nouveaux dangers, on parle aussi de ces piles boutons qui ingérés peuvent provoquer de graves brûlures.
Ah oui, qui sont présentes dans certains jouets ou
dans
certaines
beaucoup
peluches.
De jouets. Ouais, ouais. Et puis dans les livres, vous savez, les livres qui parlent
ah,
maintenant
oui,
de plus
livres,
en plus.
Oui, oui.
Bon, maintenant il y a des petites vis et tout, oui. Mais il faut quand même être très prudent. Il y a déjà eu 5 décès hein, depuis 1999 à cause de ces piles. Et moi, je rajouterais, ce n'est pas dans l'article, mais je rajouterais c'est dans la liste de ces nouveaux dangers les petits berlingots de lessive, parce que c'est arrivé à la fille d'une amie cet été. Elle jouait avec, elle a 4 ans, et elle jouait avec, et le petit berlingot a explosé, et lui a gravement brûlé les yeux. Donc attention à ces petits berlingots qui sont souvent très amusants, très colorés, que les enfants peuvent prendre pour des jouets. Un accident sur 3 arrive quand l'adulte s'occupe de l'enfant, et dans 2 cas sur 3, lorsque l'adulte ne le surveille pas, en ne pas faire la cuisine, en regardant la télé
ou en regardant son smartphone.
Exactement, exactement. Restons vigilants tout le temps. Un dossier plein de bon sens, c'est à lire dans La Croix aujourd'hui.
Ouais, je me souviens d'un geste bête qu'on peut faire facilement, c'est regarder son smartphone alors que son enfant en bas âge est dans le bain.
Ouais,
on surveille, on est juste
temps,
à côté.
Bien sûr.
On est juste à côté, donc on se dit c'est bon, mais il faut faire attention dans ces cas-là.
C'est très rapide, hein, une noyée de chez un
enfant.
Exactement,
ça va arriver très vite, il peut juste se retourner, surtout quand il est tout petit, vraiment, et se retrouver bloqué. Jérôme Lacroix.
Oui, je commence par m'excuser, les amis, je vous parle ce matin d'une guerre. Une guerre menée aux États-Unis et arbitrée par la France, vous comprenez rien.
Non, j'ai rien compris.
C'est la guerre. Du cassoulet.
Non. Oh là là. Ah
bon, on a eu peur, hein, pourtant.
Là. On rappelle que vous êtes originaire de...
De Toulouse. Ah, justement, il y a des...
C'est pas Castelnaudary
si, justement, voilà. On va en parler. Allez. La Cassoulet War. C'était aux États-Unis. Et c'est bien sûr la Dépêche du Midi qui en parle ce matin, qui nous raconte cette Cassoulet War à New York, s'il vous plaît. Alors voilà le principe. 28 chefs américains venus de tout le pays se sont tous collés à cette préparation emblématique de la gastronomie bien française, départagée par un jury français pour un concours. Donc je rappelle la recette, haricots lingots, couane, travers de porc, saucisses et confit de canard.
Alors, vous me mettez en appétit à 5h24.
Ah oui, moi, à l'heure du tout petit déjeuner, même là, ça m'a donné faim. Alors, le cassoulet de Toulouse, de Bordeaux et bien sûr de Castelnaudary. Les chefs viennent de là. Il y a même un des chefs, donc membre du jury, qui est membre de la confrérie du cassoulet, un grand maître de la confrérie du cassoulet. Alors, à l'origine de cette Cassoulet War, on trouve Ariane Daguin, qui est la fille d'André Daguin, 2 étoiles au Michelin, gersoise, installée depuis 40 ans aux États-Unis. Elle raconte « Mon père disait que chez nous, le cassoulet, c'était pas une recette, mais une façon de s'engueuler entre villages. Oui, parce qu'il y a tellement de recettes différentes. C'est une vraie guerre que j'ai ramenée aux États-Unis. Alors, ben oui, parce qu'en France, chacun son tour de main, ça alimente les rivalités Carcassonne, Toulouse, même si l'officiel, hein, disons le plus traditionnel, reste celui de Castelnaudary, c'est vrai. Mais alors, pourquoi l'Amérique, pays de la malbouffe, se passionne-t-elle pour le cassoulet? Ben, parce que vraiment, c'est le cas, hein. Ariane Daguin, elle raconte, c'est un héritage ancien. C'est ça qui plaît aux États-Unis. Ben oui, ils ont une toute petite histoire. Les chefs peuvent aller chercher les petits secrets des recettes dans les livres anciens. Ils appellent ce type de préparation de la soul food. La nourriture de l'âme, un plat qui nourrit le corps et l'esprit. Alors La Dépêche raconte que chaque année, un chef connu outre-Atlantique invite le français David Campigotto 4 soirs pour cuisiner à la carte un cassoulet, devinez le prix, aux États-Unis,
$100.
100 euros. Donc
100
pas
euros.
Loin, ouais, voilà, ouais, contre 20
donc plus
euros
que 100 dollars,
en France. Ouais. Et Ariane Daguin de poursuivre une semaine pour le cassoulet à New York. C'est trop court, c'est plus assez. L'année prochaine, ce sera le mois du cassoulet.
Le mois du cassoulet. De mieux
un
en mieux.
Un mois de cassoulet. Hein. Mais après, c'est régime.
Imaginez Eva pour votre régime là, actuellement. Ce serait compliqué. Hein.
Ah ouais. Bah encore que les haricots, c'est bon. Si vous mangez que les haricots.
Ouais, enfin, que d'haricots.
Mais après, vous exposez à d'autres effets secondaires qui, dans le cadre de votre du Évaton et de votre recherche de partenaires, pourraient être, comment dirais-je, préjudiciables dans le premier temps, en tout cas. Merci, Jérôme.
C'est naturel, hein.
Merci. C'est la nature, effectivement. Merci à tous.
Allez, c'est pas glamour.
Ah non, Jérôme.
Je crois que Jérôme a tenté une manounette.
Je m'en vais là-dessus.
Oui, il s'en va là-dessus. Les amis, le pressing referme ses portes. Céline, un dernier mot.
J'adore Isabelle Carré.
Merci.
Europe 1.
Il est 5h26, Mathieu Noël.
C'est vrai. Debout les copains, continue avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Bondissant réveil à l'écoute d'Europe 1. Ah, attention quand même.
Europe 1. Il est 5h27, Mathieu Noël.
On fait un point sur le temps de cette journée de ce 20 février avec vous, Céline Dacosta, et on peut parler de retour progressif du soleil.
Oui, on peut dire ça. Hein. Sur la moitié nord, il reviendra doucement, car ce matin, on a encore beaucoup de grisailles, des nuages bas, des brumes, des brouillards qui sont fréquents et qui vont avoir du mal à se dissiper, hein, surtout sur le nord-ouest, où ça va rester même plutôt gris cet après-midi, alors que pour les autres, les éclaircies seront de retour avec quand même toujours beaucoup de nuages. Pour la moitié sud, là aussi, de la grisaille ce matin, des brouillards, mais plus localisés, comme sur le Languedoc-Roussillon, et déjà de larges éclaircies par endroits dans la matinée. Le soleil brillera ensuite largement dans l'après-midi au sud de la Loire.
Et les températures toujours un peu fraîches ce matin.
Oui, moins 1 degré à Aurillac, 0 à Mulhouse, 1 degré à Lyon et Nancy, 3 degrés à Nîmes et Lille, 4 à Paris et Cognac, 6 degrés à Nantes et Bordeaux, 9 à Nice, 10 à Perpignan. Cet après-midi, ça remonte un peu avec une moyenne de 11 à 19 degrés du nord au sud. Il en fera 11 à Cherbourg, 14 à Paris, 15 à Marseille, 17 à Clermont-Ferrand et 19 à Biarritz. Et autant vous dire que la fin de semaine s'annonce magnifique. Le soleil va revenir dès demain,
voilà,
largement.
Et
les températures vont remonter. On aura un week-end très très beau. Prévoyez quelque chose. Hein. Allez au bord de la mer par exemple si vous avez la chance de pouvoir le faire.
J'aime comme vous, quand vous me parlez comme ça. Je n'irai pas au bord de la mer, mais merci du conseil. Eva Rock.
Depuis hier, nous rendons hommage à Karl Lagerfeld. Et puis depuis ce matin, 5h, on vous demande quel est votre rapport à la mode. Est-ce que vous achetez beaucoup de vêtements? Quel est ce vêtement dont vous ne pouvez pas vous passer? Bien sûr, Twitter avec le hashtag Europe 1. Soufiane nous envoie ce message extrêmement intéressant. Achetez moins, mais mieux. Et si possible des marques éthiques, c'est plus cher au début mais ça tient sur le temps, plus de temps de transparence sur la chaîne de valeur du vêtement, c'est aussi important. Un t-shirt à 5€, c'est toujours un peu louche. Merci beaucoup pour ces messages éthiques et responsables.
Merci à vous Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui zigzague entre l'info et le rire comme un petit carte-fou. À suivre, quel film aller voir au cinéma parmi les sorties du jour? Quelles applications géniales télécharger pour faciliter vos déplacements? Quel documentaire regarder en replay pour tout savoir sur Karl Lagerfeld? Toutes les réponses vous attendent dans Mercredi les bons tuyaux. Sans oublier votre page santé. Et si ce matin, comme Céline Dacosta, face à l'ampleur de l'épidémie de grippe, votre première réaction est de dire
« Maman, j'ai peur, je meurs d'angoisse, je cours au cinéma d'en face. »
Attendez d'avoir entendu les conseils de notre expert santé Mélanie Gomez qui vous donnera 2-3 trucs pour passer entre les gouttes.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce 20 février 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
La mobilisation contre l'antisémitisme dans toute la France. Hier encore, une centaine de tombes ont été profanées en Alsace. Alexandre Benalla derrière les barreaux. Il est accusé d'avoir violé son contrôle judiciaire en rencontrant son ami Vincent Crasse, qui a lui aussi été placé en détention provisoire. Et puis le foot, Lyon garde toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Match nul hier soir contre le Barça, 0 partout. On va y revenir dans le journal des sports.
Europe 1.
Des dizaines de milliers de personnes sont donc descendues dans la rue hier un peu partout en France pour dire l'antisémitisme, ça suffit. À Paris, la place de la République était noire de monde. 20 000 personnes selon les organisateurs. Rassemblement également à Bordeaux, Lille, Lyon ou Marseille. Une montée des actes antisémites illustrée hier encore par la profanation de 96 tombes en Alsace. Le président Macron s'est rendu sur place au cimetière de Katzenheim au nord-ouest de Strasbourg. Il promet d'agir.
C'est ce visage de Katzenheim qu'il faut donner.
C'est pour ça qu'il faut que ça change, monsieur.
Que
président.
Vous soyez là.
Oui.
Et qu'on soit là tous ensemble.
Tous ensemble, toutes les communautés tous, réunies. Oui.
Et qu'on frappe les consciences, vous savez. On prendra des actes. On prendra des lois. Et on punira. Mais la fin, c'est dans la conscience de chacune et chacun. Et la République, elle s'apprend et elle se porte. Ceux qui ont fait ça ne sont pas dignes de la République. Elle les punira. Mais je ne veux pas que ce qui s'est passé là donne des idées à d'autres. Et c'est aussi par la réaction populaire, la force qu'il y a en chacun, qu'on apportera la meilleure réponse.
Emmanuel Macron au micro Europe 1 d'Arthur Elmbaché, le chef de l'État qui prendra la parole ce soir au dîner du CRIF. Les instances représentatives des Juifs de France veulent des actes concrets, que la loi soit appliquée. C'est aussi le souhait de l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Bin Noun, qui était hier soir sur Europe 1. Les Juifs, dit-elle, doivent se sentir en sécurité.
La peur, parce qu'ils sont juifs, n'est pas être la raison pour laquelle on décide de quitter la France. Et je sais que les autorités françaises, ils font beaucoup pour protéger tous les citoyens français, y compris les juifs qui sont tout d'abord des citoyens et français et qui sont d'ailleurs et plus menacés peut-être que des autres. Mais il faut toujours voir qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour sécuriser leur vie. On ne peut pas vraiment faire la différence entre l'antisioniste et l'antisémite, parce que l'antisionisme est une forme réinventé de l'antisémitisme.
L'ambassadrice d'Israël en France au micro Europe 1 de Mathieu Béliard.
Alexandre Benalla a passé sa première nuit en prison.
Oui, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée a été placé hier en détention provisoire parce qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur les violences du 1er mai à Paris. Même sanction pour son ami Vincent Crase. Mediapart avait publié des enregistrements d'une conversation entre les deux hommes datant du 26 juillet, 4 jours après leur mise en examen alors qu'ils avaient l'interdiction d'entrer en contact. Il se trouve que c'est aujourd'hui que le rapport d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla doit être dévoilée. Et puis un vent de panique a soufflé hier sur la Canebière à Marseille. Un homme a blessé 3 personnes au couteau avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Il avait été condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de son père.
Europe 1, il est 5h33.
Les cadres ont le vent en poupe. On va vers un nouveau record en matière de recrutement.
Oui, les entreprises françaises n'ont jamais embauché autant de cadres que l'an dernier. Et ça va continuer. L'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, prévoit 270 à 292 000 recrutements en 2019, qui sera la 6e année consécutive de hausse. Il y a la bonne conjoncture économique, mais aussi la transformation des entreprises et donc les besoins en nouvelles compétences. Explication d'Olivier Samin.
Que la croissance soit forte ou au contraire qu'elle subisse un coup de mou, peu importe, le marché de l'emploi cadre n'est plus aussi sensible qu'autrefois aux aléas de la conjoncture. La transformation numérique des entreprises, c'est là que se situe l'essentiel des besoins. Près de 4 embauches de cadres sur 10 concerneront cette année des postes en informatique ou en recherche et développement. L'autre gros défi à relever, c'est la nécessité pour les entreprises de se conformer à des normes toujours plus pointues. L'année dernière, les nouvelles règles en matière de protection des données ont provoqué de grosses vagues d'embauches. Et comme le dit Gaël Bourron, en charge des études à l'APEC, le mouvement ne va pas s'arrêter.
Les évolutions réglementaires, elles sont permanentes. C'est le cas notamment dans l'industrie, hein, l'industrie agroalimentaire, dans le cadre d'une logique de qualité totale. On peut penser bien sûr également à l'industrie pharmaceutique, où c'est un enjeu extrêmement fort. Mais c'est également un enjeu dans d'autres secteurs. Si on prend les banques et les assurances, par exemple, il y a de nouvelles normes à respecter, de nouvelles présentations de comptes, et on cherche très souvent des experts dans ces domaines.
Ces besoins des entreprises ne vont pas disparaître de sitôt, dit l'APEC, qui pronostique une nouvelle hausse des recrutements de cadres dans les années qui viennent.
Olivier Samin, et puis la mort d'une icône de la mode, Karl Lagerfeld, catogan et lunettes noires, s'est éteint à 85 ans, un âge qu'il prenait soin de cacher. Sous l'ère Lagerfeld, Chanel est devenue la deuxième marque de luxe au monde. C'est sa plus proche collaboratrice Virginie Viard, qui l'appelait son bras droit et bras gauche à la fois, qui va lui succéder à la création des collections. Son chat adoré, Choupette, sera l'une des bénéficiaires de sa fortune. Star des réseaux sociaux, elle avait déjà droit à 2 dames de compagnie et un garde du corps.
Un minimum pour un chat de cette classe. C'était le journal d'Hélène Zeleny, une journaliste fabuleuse, mais pas infaillible, qui le sait. Elle pourra toujours compter sur moi pour voler à son secours quand elle bute sur un mot trop compliqué. Comme par exemple l'adverbe éminemment complexe, internationalement.
Son nom ne vous dit sans doute rien, pourtant sa silhouette est inter... Oh là là, c'est trop dur à dire.
Internationalement. Toujours là pour vous, toujours là pour vous Hélène, telle est ma devise. Et je ferai de même pour Jérôme Lacroix, c'est l'heure du journal des sports. À la une, Jérôme, ils ont muselé Lionel Messi.
La superstar argentine du foot n'a pas marqué hier soir à Lyon. 0-0 entre l'OL et le grand Barcelone en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Lionel Messi et ses coéquipiers, auteur de 25 tirs, forte domination en seconde période, notamment des assauts auxquels a parfaitement répondu Anthony Lopez, le gardien auteur de plusieurs parades décisives. Clément Langlais, défenseur français de Barcelone, pas étonné d'être tombé sur des Rodaniens coriaces.
On a vu qu'ils étaient capables de faire des matchs de très très haut niveau contre les grosses équipes, que ce soit City ou les deux fois contre le PSG, en tout cas pendant 60 minutes sur le premier match. Pas étonné, c'est une équipe qui a beaucoup de talent et sur le match retour, il faudra faire au moins le même match pour pouvoir se qualifier.
Alors justement, le retour c'est le 13 mars à Barcelone. Il faudra marquer au Camp Nou, c'est sûr, pour se qualifier sans
Camp
en
Nou,
passer.
Vous dites. Oui,
ah
oui, Camp Nou. Je sais pas, longtemps c'était le New Camp, ensuite on a dit le Camp Nou.
New Camp
et maintenant
Nou.
Le Camp Nou.
Ouais, le Camp Nou peut-être.
Ah oui, d'accord,
ouais.
Je ne sais pas. Je sais,
en fait, je suis même pas sûr qu'à la catalane ça se dise Camp Nou. Je suis pas sûr.
Non, je pense pas.
Non, Camp Nou. Il faudra marquer au Camp Nou, c'est sûr, pour se qualifier.
On appellera Henri de la Guérie.
Sans en passer par les tirs au but, oui, bonne idée. Ce serait un exploit hein, de se qualifier. Ces Lyonnais peuvent-ils le faire? Eh bien oui, répond ce matin l'ancien bleu Alain Roche, consultant européen.
C'est un très beau score, puisqu'ils ont subi la domination, la possession, les occasions de cette équipe barcelonaise. Heureusement qu'ils sont tombés sur des Barcelonais maladroits dans le dernier geste. Mais il y a l'espoir, on verra sûrement des les Lyonnais un peu plus conquérants, parce qu'il faudra s'imposer. Et surtout, une chose très importante, il y aura de l'espoir, puisqu'il y aura le Nabil Fekir, leur meneur de jeu, leur capitaine, qui reviendra pour ce match retour.
Des propos recueillis par Marie Guida. Nabil Fekir, oui, qui était suspendu hier. 0-0 également hier soir, dans l'autre match Liverpool-Bayern-Munich. Retour également le 13 mars.
Le rugby et Jacques Brunel jouent l'atout jeune.
Coup de poker ou risque calculé du sélectionneur des Bleus, on le saura samedi à l'issue de France-Écosse au Stade de France. Troisième rendez-vous des Six Nations. Les jeunes, on va les retrouver en charnière. Les postes clés de demi de mêlée et demi d'ouverture seront occupés par deux Toulousains, Antoine Dupont, 22 ans, et Romain Tamac, 19 ans. 12 sélections à eux deux. On n'avait plus vu une charnière aussi jeune en bleu depuis plus de 10 ans. Leurs prédécesseurs, les Clermontois Parra et Lopez, ne figurent même pas dans le groupe. Eux qui avaient semblé critiquer le travail du sélectionneur après la déroute en Angleterre. Rien à voir, assure Brunel, et pour cause.
Moi, j'ai rien entendu. Aucun joueur, et je les ai consultés, n'a remis en cause le contexte dans lequel ils étaient. Pour moi, ça n'existe pas. Non, mais je discute avec eux, et ils me disent « c'est pas vrai, on n'a pas dit ça ». Donc je les crois.
France-Écosse, tournoi destination samedi 15h15 au Stade de France.
On reste dans le rugby avec la personnalité du jour.
Oui, j'ai choisi Jamie Cudmore, l'ancien joueur franco-canadien, porte plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est une première. Procédure pénale après avoir attaqué au civil son ancien club Clermont. Selon un expert, Cudmore n'aurait pas dû retourner sur le terrain en 2015 après avoir subi un choc à la tête. Clermont estime de son côté que Cudmore, ayant totalement récupéré ses facultés cognitives, la responsabilité du club ne peut être engagée.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, j'aimerais vérifier quelque chose. Voyez, s'il vous plaît, relevez un instant votre chemise. Juste vérifier en tâtant vos abdominaux si vous faites vraiment autant de sport que vous le dites.
Ah ben oui, la preuve.
Oh, c'est bien ce que je pensais. Que de la gueule.
Europe 1.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
C'était pas de la gueule. Enfin, c'est pas grave,
on
c'est
désespéré. Ouais. Vous écoutez Debout les copains, deux heures de bonne humeur certes, mais avant tout deux heures d'infos rigoureuses délivrées par des journalistes éminemment sérieux à qui il ne viendrait par exemple jamais à l'idée de planquer un maroilles dans le tiroir du bureau d'une collègue allergique au lactose. Jamais.
Bande d'enfoirés.
À suivre, votre point santé, cette question face à l'épidémie de grippe particulièrement virulente cette année. Que faire, quel geste pour l'éviter, surtout pour distinguer si c'est la vraie grippe ou simplement une petite grippounette. Les réponses de notre expert santé à suivre.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'heure de faire un point sur la météo du jour avec vous, Céline Dacosta. Oui. Et le soleil va faire son retour, vous
oui,
nous le promettez.
Oui, bien sûr, mais timidement, hein, sur la moitié nord où on a beaucoup de grisailles ce matin, des nuages bas et des brouillards qui vont avoir du mal à se dissiper, surtout sur la Bretagne. Les éclaircies, elles reviendront dans l'après-midi. Ce sera plus rapide sur la moitié nord, hein, avec là aussi un peu de grisailles, mais le soleil fera déjà de belles apparitions ce matin. Côté thermomètre, ça remonte déjà un petit peu, avec 11 à 19 degrés en moyenne dans l'après-midi. Il fera de plus en plus doux les jours qui viennent, avec une moyenne de 16 à 19 degrés du nord au sud pour ce week-end.
Merci Céline et Varoc.
Depuis ce matin 5h, nous parlons mode en hommage à Karl Lagerfeld. On vous demande quel est votre rapport à la mode. Et bien Isabelle sur Twitter avec le hashtag Europe 1 nous répond: mon rapport à la mode, à la folie. J'ai une passion absolue en particulier pour Yves Saint Laurent, mais en tant que consommatrice, ultra raisonnée pour limiter au maximum l'impact pour la planète. Merci, vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure de notre page santé avec Mélanie Gomez ce matin. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
L'épidémie de grippe qui sévit actuellement sur toute la France a déjà fait 1800 morts cet hiver et plusieurs dizaines de milliers d'hospitalisations. Alors justement, si la grippe vous tombe dessus dans les jours qui viennent, on va revenir au basique ce matin avec vous Mélanie. Que faut-il faire ?
Eh bien d'abord, il faut être sûr qu'on a vraiment la grippe, parce qu'à cette saison, il y a plein de virus, donc ça peut être une rhino, un gros rhume, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec la grippe. Je peux vous assurer que lorsqu'on l'a eu une fois, on s'en souvient. Donc pour la reconnaître, hein, il y a quelques signes qui ne trompent pas. La grippe, elle débarque de façon brutale, avec une fièvre qui monte très vite à au moins 39. Souvent, il y a aussi une gêne respiratoire, on tousse. Et puis, dans la majorité des cas, la grippe, ça va avec les courbatures caractéristiques, celles qui vous clouent au lit littéralement.
Alors, si on a tous ces symptômes, on fait quoi ? Il faut absolument consulter ou pas ?
Alors, c'est mieux, effectivement. De toute façon, si c'est vraiment la grippe, vous ne pourrez pas aller travailler. Donc, il faudra que le médecin vous fasse un arrêt de travail. Hein. En revanche, c'est vrai que vous n'allez pas consulter pour qu'on vous prescrive un traitement particulier. Parce qu'en fait, avec la grippe, c'est viral, donc pas d'antibiotiques déjà. La seule chose, c'est que le médecin vous conseillera le paracétamol contre la fièvre et les douleurs, sauf pour les plus fragiles, les cardiaques par exemple, ou si vous avez un bébé à la maison, là, un antiviral, le Tamiflu, peut être utile. Alors son intérêt à ce médicament, c'est surtout que si on le prend dès les premiers symptômes, eh bien, ça permet aux malades d'être beaucoup moins contagieux.
Bah, et au final, on a combien de temps pour s'en remettre ? Quand on est en bonne santé au départ, bien sûr.
Alors, la grippe, il faut savoir que ça dure en moyenne 8 jours. Au-delà, effectivement, si ça ne va pas mieux ou si les symptômes, surtout respiratoires, s'aggravent, surtout, il ne faut pas hésiter à reconsulter. Et puis, pas d'inquiétude. Hein, si pendant encore quelques semaines, ce n'est pas la grande forme, après une grippe, il faut savoir que l'état de fatigue, lui, peut durer encore un mois.
Merci beaucoup Mélanie Gomez, on se retrouve demain 5h40 pour un nouveau Point Santé.
Europe 1,
il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'allégresse informative. Je vous rappelle notre nouveau slogan, Eva, Debout les copains.
Ouais oui, ça fait du bien.
Un bien fou même, grâce aux bons conseils culture et nouvelles technologies de nos experts. Quel film aller voir en salle cette semaine? Quelle appli télécharger pour faciliter vos déplacements en ville? Les réponses dans Mercredi les bons tuyaux, juste après une parenthèse musicale dynamique et pour le coup diablement jeune. Voici Promises, Calvin Harris et Sam Smith sur Europe 1. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You think tonight?
'Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. 'Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Joli titre. Promises, Calvin Harris et Sam Smith sur Europe 1. Visiblement, j'ai parlé alors que le micro était déjà ouvert. Ah oui. C'est ça, je vois en régie qu'ils se prennent la tête dans la scène. C'est
tout
l'incident.
Tout le monde sait que les titres arrivent.
Oui, oui, oui. Les
titres arrivent. Il est 5h46. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Des milliers de Français réunis pour dénoncer les actes antisémites. 70 rassemblements partout en France, à Paris. 20 000 personnes, place de la République, des élus, mais aussi des citoyens de toutes origines, de toutes confessions. Alexandre Benalla et Vincent Crase placés en détention provisoire à la prison de la Santé pour non-respect du contrôle judiciaire qui leur était imposé dans l'affaire des violences du 1er mai. Ils avaient interdiction de se rencontrer, ce qu'ils ont fait. Pourtant, fin juillet, leur conversation a été secrètement enregistrée. Enfin, le film de François Ozon, Grâce à Dieu, sortira bien dans les salles aujourd'hui. Il raconte la lutte des victimes présumées du père Prénat dans le diocèse de Lyon. Hier, un ex-membre du diocèse poursuivi pour non-dénonciation a été débouté. Elle demandait que son nom soit retiré du film.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 20 février, sauf que nous n'avons encore rien dit des pronostics hippiques du jour. Or, Céline, dans quelques heures, de fiers canassons montés de robustes jockeys vont prendre le départ sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer.
Ah, il faut faire quelque chose.
Ben oui, écoutez les pronostics de José Covès. Bonjour José.
Bonjour, debout les copains, ce n'est pas rien. Et à Cannes-sur-Mer, 16% sont au départ de la première course. Mes 5 favoris d'abord, le 10, Pastichop. Il leur faut toutes les garanties de sérieux. Même constat avec le 11, Robert Lightning. Sa chance est de premier ordre. Le retour en forme du numéro 6, Valek arrive au bon moment. Sur la Côte d'Azur, l'entraîneur et le jockey du numéro 14, Namadjar, jouent les vedettes. Quant au 16, Aprilios, il a remporté cette même épreuve en 2017. Il doit s'en rappeler. Trois autres possibilités. Le numéro 2, On the Sea, il a déjà brillé sur ce tracé des 1600 mètres. Le 8, Dégrisement, il va galoper sur le sable, sa surface de prédilection. Et enfin, le 3, Crépuscule des dieux pour l'ensemble de son œuvre. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h47. D'abord le 10, le 11, le 6, le 14 et le 16. Et l'on ajoute le 2. 2, le 8 et le 3.
À vous entendre, José, le jockey et l'entraîneur du 14 Namazjar font leur festival de Cagnes.
Avec 21 succès, oh c'est magnifique, avec 21 succès et 46 places, le jockey Maxime Guyot obtient la palme d'or et la meilleure mise en selle revient à l'entraîneur Fabrice Vermeulen avec 10 gagnants. Dans ce quintet, ses deux premiers rôles nous présentent Namazjar et je vois bien Mathieu, ses trois noms s'inscrire au générique.
Merveilleux, José Coves.
Oh, c'est magnifique.
C'était un vrai festival, merci José.
Il est 5h48.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mercredi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Anne Le Gall pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien et pour évoquer les sorties ciné. Celui qui, à force de gravir les échelons de l'organigramme d'Europe 1, a appris à ruser. Il a appris à ruser, s'enflammer quand il le pouvait, mais aussi enrober ses critiques lorsque le film qu'il commentait était un partenariat européen. Sa phrase magique étant désormais
« Franchement, si vous aimez ce genre-là, eh bien une nouvelle fois, vous en aurez pour votre argent. »
Traduction, c'est une bouse intersidérale, mais contractuellement, je ne peux pas le dire.
Habile.
Mathieu Charrier, forcément, ne devient pas vice-chef adjoint délégué du service culture d'Europe 1 sans un minimum de ruse et de machiavélisme. Aujourd'hui, Mathieu, pour commencer, vous nous dites qu'il y a un film qu'il ne faut pas louper. C'est Le Chant du Loup.
Oui, pour une fois qu'on a un grand film d'action français, il faut aller le voir. Ça se passe dans les sous-marins nucléaires, figurez-vous. L'histoire en deux mots, il y a des djihadistes qui ont récupéré un ancien sous-marin nucléaire russe. Ils tirent un missile qu'on pense chargé d'une ogive nucléaire vers la France. Évidemment, le président ordonne immédiatement une riposte lorsque l'on se rend compte qu'en fait, le tir de missile n'est pas chargé. Le problème, c'est qu'une fois que le président a ordonné un tir nucléaire, la procédure veut que le sous-marin coupe toute communication, ça c'est la vraie procédure, et aille jusqu'au bout de sa mission. Et vous imaginez bien sûr que si le tir français a lieu cette fois, la guerre nucléaire mondiale sera bien déclarée. Ça, c'est la trame de l'histoire. Ensuite, je vous précise qu'on n'est pas que dans un film d'action à l'américaine. On plonge sous l'eau dans les sous-marins, il y a du suspense, beaucoup de suspense. Mais il y a aussi, et nous on aime ça en radio, tout un travail fait autour du son. Parce que vous savez que dans les sous-marins, évidemment, par définition, on ne voit rien. Et il y a un poste déterminant, c'est celui qu'on appelle l'oreille d'or, qui doit comprendre ce qui se passe autour juste en écoutant les bruits. Dans le film, il est joué par François Civil. Dans les équipages, on retrouve aussi Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Omar Sy. Et puis surtout à la réalisation, c'est Antonin Baudry, vous savez, c'est cet ancien conseiller de Dominique de Villepin. Qui était au Quai d'Orsay, qui avait signé la BD justement qui s'appelait Quai d'Orsay sous le pseudonyme Abel Lanzac. Là, c'est son premier film en tant que réalisateur, donc allez-y et surtout allez voir ce film si possible sur un très très grand écran, vraiment ça vaut le coup.
Et puis il y a un autre film que vous nous conseillez aujourd'hui, c'est La Chute de l'Empire Américain.
Oui, signé Denis Arcand, vous savez qu'il avait fait le déclin de l'Empire Américain.
Ça faisait
plusieurs années, effectivement il met 4-5 ans en moyenne pour faire ses films. Alors là on retrouve son humour dans La Chute de l'Empire Américain, il avait interrogé notre rapport à l'argent. Alors l'histoire c'est celle d'un livreur type FedEx, vous voyez, qui passe ses journées à transporter des plis à bord de son camion, sauf qu'il arrive un jour dans une petite boutique et il tombe sur un braquage, deux jeunes qui tentent de voler plusieurs millions. Lorsque débarque un troisième, ça tire dans tous les sens, un s'échappe, les deux autres sont tués et il laisse par terre deux gros sacs de sport remplis de billets. N'une ni deux, notre livreur n'hésite pas, il s'en empare, il demande l'aide d'un ex-tolar pour investir cet argent, sauf que derrière un scénario déjà vu, il faut bien le dire, Denis Arcand nous fait une nouvelle fois nous questionner parce que ce livreur, il est très philosophe, cultivé, il réfléchit à sa situation, à ce vol d'argent, à cette opportunité qui finalement n'arrive qu'une fois dans une vie. Il y réfléchit à voix haute et puis que faire de toute cette monnaie? Parce que finalement, après s'être offert une escort girl dont il va tomber amoureux d'ailleurs, il est bien emmerdé pour le dépenser. Donc voilà, c'est un film qui est drôle, c'est un film qui est intéressant, qui nous questionne beaucoup. Ça s'appelle La Chute de l'Empire Américain. Et une nouvelle fois, évidemment, c'est en québécois, ce qui est toujours savoureux, tabernacle.
Il y avait une belle tentative là.
Pas mal.
Tabernacle, moi j'y arrive pas, je ne sais pas, je fais l'accent belge quand je veux prendre l'accent québécois, ça m'agace, c'est un des grands problèmes de ma vie. Anne Le Gall, je me tourne vers vous, on parle des nouvelles technologies au service de notre quotidien. Aujourd'hui, alors que les vacances approchent pour certains et qu'elles se terminent pour d'autres, nous parlons de trois applications pour mieux nous déplacer.
Voilà, et d'abord pour ceux qui vont prendre la voiture pour partir ou pour rentrer de vacances, il y a Why Not, une application qui rend les trajets sur autoroute moins ennuyeux.
Attention, Why Not, comment on l'écrit? W-A-Y,
Note. Note, en un seul mot. Parce que oui, le
et
problème.
Non pas why not, parce que c'est un jeu de mots avec pourquoi pas.
Exactement.
Why not
ça rend les trajets moins ennuyeux parce que le problème sur l'autoroute, c'est qu'on traverse des régions entières sans savoir ce qui nous entoure.
Alors, c'est vrai ça.
Il y a de temps en temps un panneau marron, vous savez, qui indique un lac, un château,
un petit
voilà.
Monument, une petite église.
Mais c'est tout. Alors que Why Not, elle, vous géolocalise et vous propose des messages audio au fil du trajet. Ce sont des messages de 30 secondes qui donnent des informations historiques, culturelles,
comme
économiques.
Comme le titre de France 2 sur le Tour de France.
Voilà. Et ça donne des zones sur les des infos génial, sur les ça. Zones traversées. Et puis, il y a aussi des idées de pauses à proximité des sorties
d'autoroute. Des pauses gourmandes,
par exemple.
Ah, pour varier un peu d'autogrill.
Eh oui.
Très bonne idée. Et pour ceux qui, hélas, ne partent pas en vacances, qu'est-ce que vous nous conseillez?
Pour ceux qui sont tentés par le vélo en ville parce qu'il fait beau, parce que ça donne un parfum d'évasion, de vacances, pour eux, il y a GéoVélo. Alors ça, c'est génial. C'est un GPS spécial cycliste. Il calcule les trajets les plus sécurisés avec un maximum de pistes cyclables pour aller d'un point à un autre. Et cette appli vous donne également l'emplacement des parkings à vélo ou
le
des points de location libre-service.
Je voulais créer ça. Je me disais que c'est dingue. Que ça
c'est trop tard.
Ah, c'est mince, encore, c'est pas grave.
Encore raté.
Encore une fortune qui vous passe sous le nez. Mathieu Charrier, quel dommage. Ça fonctionne partout en France, ce truc-là?
Alors, GéoVélo, ça fonctionne pour l'instant dans une quinzaine de villes en France. Paris, Montpellier, Nantes, par exemple, La Rochelle, Mulhouse, Tours. Et là encore, c'est gratuit. Enfin, pour les amoureux des grandes villes, Paris, Lyon, mais aussi Rome, Londres, New York et une quarantaine de villes à l'étranger, il y a CityMapper. CityMapper vous permet de comparer tous les modes de transport possibles pour aller d'un point A à un point B. L'application calcule le temps de trajet, son coût, que ce soit en bus, en métro, en voiture ou en trottinette électrique. Les paresseux peuvent même savoir dans quelle rame de métro il faut monter pour marcher le moins possible entre deux stations.
Oh, les feignassous.
C'est très bien pensé, ça vous parle, Mathieu Charrier.
Mais Mathieu Charrier opine, donc lui, il avait déjà pensé.
Voilà, c'est vraiment pour les paresseux.
Moi, j'ai... Oui, donc vous avez encore une appli?
Non,
parce que je pense à une appli que vous n'avez pas citée, mais je ne me souviens pas du nom, je vous le donnerai demain. C'est une appli qui permet, non mais c'est intéressant, le concept intéressant, c'est-à-dire que ça permet de télécharger, quand vous êtes à l'étranger, pendant vous téléchargez la carte et vous y avez ensuite accès...
Tout le temps.
Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir de Wi-Fi ou de 4G ou de 3G, donc ça permet, c'est pratique parce que souvent...
Vous nous retrouverez le nom parce que...
Bah oui, je veux trouver le nom parce que là, ça ne sert à rien, mais voilà, c'est du teasing pour demain.
On va le retrouver, je vous redonne les noms des trois applications citées aujourd'hui. CityMapper, WhyNot, donc WhyNote et GéoVélo.
Merci beaucoup, Anne Le Gall. Eva Rock.
Eh bien, à peine le décès de Karl Lagerfeld était annoncé hier que le web s'animait de photos et de vidéos du créateur. Et alors, parmi tous les contenus consacrés au créateur, je vous conseille deux documentaires en particulier. Le premier, il est sur Netflix, dans la série Seven Days Out, les sept jours précédant le défilé printemps-été 2018. Les coulisses de la création au plus près des couturières qui répondent aux exigences de Lagerfeld. C'est un ballet d'étoffes et de couleurs et c'est un documentaire réalisé comme un film avec ses personnages forts, son héros et un suspense qui est dû au décompte des heures avant le défilé. Plus original et plus intéressant, c'est le film de Loïc Prigent, Karl Lagerfeld se dessine. Carte rediffusera d'ailleurs vendredi soir, devant un bloc de papier, feutre en main. Il va croquer sa vie, c'est une introspection en dessin au cours de laquelle il raconte notamment son enfance et son rapport à sa mère.
Elle avait des cheveux dans sa jeunesse aigle de corbeau, ce qui faisait qu'elle avait des très beaux cheveux blancs, ce qui n'est pas mon cas, parce que les miens étaient genre Coca-Cola, que quand j'étais enfant, elle disait même que je ressemblais à une vieille commode d'acajou et qu'elle voulait me teindre les cheveux parce qu'elle trouvait cette couleur absolument abominable. D'autant plus qu'il fallait lutter pour parler avec elle, parce qu'elle disait, toi tu as 6 ans, moi je ne les ai pas, alors fais un effort ou tais-toi. Et de toute façon, elle passait sa vie à dire, tu me ressembles, mais un peu moins bien. Là, j'ai entendu ça toute ma vie.
C'est un documentaire exceptionnel qui s'achève avec une question sur la mort.
Vous pourriez me dessiner l'endroit où vous souhaiteriez être enterré?
Ah mais quelle horreur! Ah non, ça... Brûler, jeter, fini. Ah non, quelle horreur! Ça, c'est des trucs... J'ai horreur de ça. J'ai horreur de l'idée d'encombrer les gens avec les restes. Ah non, quelle horreur! Non, non, à un moment donné, il faut décamper. Hein.
Arte proposera donc ce film et un autre intitulé Signé Chanel vendredi. Ce soir, c'est France 2 qui rediffuse également à 22h40 le numéro de Un jour un dessin qui était consacré à Karl Lagerfeld, évidemment. Et puis jeudi, après le soir 3, France 3 proposera le numéro avec le couturier du divan de Marc-Olivier Fogiel. Voilà, toutes les infos en hommage à Karl Lagerfeld.
Merci beaucoup Eva Rock, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Céline, en hommage à Carlos qui, on le rappelle, aurait fêté ses 76 ans aujourd'hui.
Ah, oh, dis donc.
Qu'est-ce que t'as, doudou, dis donc.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Les températures toujours un peu fraîches ce matin.
Oui, c'est vrai, on a encore quelques températures négatives dans le nord-est avec moins 1 degré à Mulhouse. Il en fait 0 du côté de Nancy, 1 degré à Lyon, 3 degrés à Nîmes. Dans le sud aussi, c'est frais, mais au nord également avec 4 degrés à Lille et Paris, 6 degrés à Nantes et Bordeaux, 9 à Nice, 10 à Perpignan. Et puis cet après-midi, ça va remonter, ça y est, doucement avec une moyenne de 11 à 19 degrés du nord au sud. Il en fera 11 à Cherbourg, 14 à Paris, 15 à Marseille, 17 à Clermont-Ferrand et 19 à Biarritz.
Le soleil revient.
Oui, ensuite. Sur la moitié nord, il reviendra doucement, hein, car ce matin, on a encore beaucoup de grisailles, des nuages bas, des brumes, des brouillards qui sont fréquents et qui vont avoir du mal à se dissiper, surtout sur le nord-ouest, la Bretagne, où ça va rester plutôt gris cet après-midi. Pour les autres, les éclaircies vont faire leur retour. Et puis pour la moitié sud, là aussi de la grisaille ce matin, quelques brouillards, mais plus localisés, hein, comme sur le Languedoc-Roussillon en ce moment. Et déjà des éclaircies qui viendront ensoleiller la moitié sud par endroits dès ce matin. Le soleil brillera ensuite largement dans l'après-midi au sud de la Loire.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.